Interview.
Okay, då börjar vi.
L'interview du jour.
Rencontre de l'écologie est toujours en interview avec Isabelle Delannoy. Bonjour.
Bonjour.
Isabelle Delannoy, vous êtes économiste et vous êtes ici pour nous parler d'une conférence qui aura lieu et qui s'intitule « Pour une économie régénérative ». Vous serez accompagnée de Dominique Bourg, philosophe, professeur honoraire et de l'Université de Police et de Lausanne, et Pierre Gérogin, qui sera l'animateur économie circulaire. Qu'est-ce qui fait lien entre vous trois ?
Alors, Dominique, je le connaissais depuis longtemps, et il a préfacé mon livre, L'économie symbiotique, régénérer la planète, l'économie et la société, et qui est le livre pionnier sur l'économie régénérative en France, et qui montre justement que la régénération, c'est pas seulement les sols, c'est pas seulement les écosystèmes vivants, c'est aussi les écosystèmes sociaux et les écosystèmes économiques. Ça porte la régénération à un niveau économique et qui montre que c'est une alternative possible à l'économie actuelle. Donc avec Dominique, on poursuit les mêmes interrogations depuis longtemps. Et sinon, évidemment, l'économie circulaire en fait partie. Parce qu'il faut créer nos systèmes industriels, il faut créer nos systèmes, nos bâtiments, nos routes, nos machines qui puissent se régénérer eux-mêmes en fait, arrêter d'avoir un confort matériel qu'on est bien obligé d'avoir et qui nous... Moi, je suis une femme, je suis contente d'avoir une machine à laver, je sais ce que ça veut dire dans la libération des femmes d'avoir des machines. Et qui est importante pour nos sociétés et d'avoir une économie qui sait régénérer ses capacités techniques et ses capacités industrielles sans avoir à extraire toujours davantage et sans avoir à délocaliser. Donc en cela, l'économie circulaire fait partie de cette économie. Donc voilà ce qui nous relie tous, c'est de savoir faire des écosystèmes entre nous, écologiques, sociaux, économiques, industriels.
Vous avez eu une formation d'ingénieur en agriculture de formation. S'il y a bien un territoire ou un domaine où l'outil a sa place et où on le maintient le plus longtemps possible en fonction, c'est une bonne école aussi, l'agriculture.
Ah, c'est une très bonne école, l'agriculture, parce que pour faire de l'agriculture, on fait des études de biologie et d'écologie. Et justement, les écosystèmes vivants nous apprennent à réfléchir en réseau de flux. Dans un écosystème vivant, il n'y a pas un arbre qui décide pour tout le monde. Il y a des êtres vivants qui savent s'harmoniser avec différentes relations et qui finalement enrichissent leur milieu. Et l'agriculture, c'est pas seulement des sols, c'est pas seulement des plantes qu'on cultive, c'est aussi de tout le lien à notre source en eau, c'est le lien à ce qu'apportent les écosystèmes autour, la forêt, les rivières, mais c'est aussi un écosystème social. Et l'agriculture, elle est reliée à son territoire. Et du coup, c'est une économie régénérative, c'est une économie qui se développe en symbiose avec ses territoires. Donc oui, l'agriculture est une bonne école.
Et puis, à la suite de cette formation, vous avez coécrit avec Yann Arthus-Bret. Je me reprends. Yann Arthus-Bertrand, le film Homme. Donc, pour vous, c'est aussi la manière de découvrir d'autres aspects du monde.
Quand on a écrit Homme avec Yann, c'était en 2008. Il est sorti en 2009. Et donc, vous voyez, ça fait plus de 15 ans déjà. Et c'était important pour nous de montrer en fait combien nous étions liés à la Terre. À la fois, on a l'impression d'avoir jamais été aussi en dehors de la Terre, avec vous voyez, des villes énormes qui se développent, avec notre vie qui est très liée à nos machines. Et pourtant, nous, on n'a jamais été aussi dépendants de la Terre. parce que tout ce développement qui nous met hors sol, il est en fait très extracteur de ressources. Et du coup, évidemment, quand la Terre va mal, ce développement est encore plus fragile. Donc c'est ça qu'on a essayé de dire dans Home, c'était, on est lié à notre maison.
Il y a eu cet exode rural aussi. Il y a eu cet exode rural qui a peut-être fait en sorte que les campagnes soient désertées en France. Donc, justement, la population étant moins présente, est-ce qu'il n'y a pas eu cette possibilité de prise de conscience vers quoi se dirigeait la terre, le sol ?
En fait, il y a cet exode rural qui assurément ne facilite pas cette prise de conscience du lien à la Terre. Et puis, il y a des systèmes de pensée qui nous habitent depuis longtemps, qui nous séparent en fait de la nature. Vous voyez, il n'y a qu'en Occident que le concept de nature existe. On fait l'opposition nature-culture, on fait l'opposition raison-sentiment, on fait l'opposition tête-corps. Ça, c'est quelque chose qui est né à une certaine époque, qui est né notamment au XVIIe siècle, et c'est le courant du naturalisme, et qui est né dans une géographie, l'Occident, justement. Donc, on est héritier de cette pensée, et on a du mal à penser que la nature est puissante. On a du mal à penser qu'on en fait partie et qu'on est une espèce parmi d'autres avec notre spécificité, avec notre génie qui est très puissant. Mais on a tendance à s'opposer à elle. Et ça, c'était déjà bien avant l'exode rural.
Alors, vous avez été l'autrice de la théorie de l'économie symbiotique. C'est considérer tous les aspects d'une civilisation, que ce soit depuis la nature jusqu'à la société, avec autant d'intermédiaires, je ne sais pas lesquels. Vous pourriez peut-être nous en parler. Qu'est-ce que permet justement cette théorie ?
En fait, cette théorie, elle est issue de l'observation. C'est-à-dire, c'est en observant les pratiques qui étaient capables de régénérer qui étaient capables de se régénérer elles-mêmes, de régénérer leur milieu, que je suis arrivée à me dire « Oh, mais en fait, les pratiques dont on a besoin pour une nouvelle économie, elles existent partout, en fait. Elles existent dans tous les pays, elles existent dans tous les milieux. » Les milieux chauds, les milieux froids, les milieux urbains, les milieux ruraux, les pays pauvres, les pays riches, et que finalement, quand on regarde, elles adressent tous les domaines nécessaires à une économie avancée. Et donc, on n'en est pas conscient, mais on a créé depuis de nombreuses années, et qui se sont développées notamment depuis les années 70, des pratiques qui soit sont complètement nouvelles, soit en fait s'inspirent des savoirs ancestraux et notamment des peuples premiers et forment comme ça une nouvelle donne, un nouveau mélange qui est vraiment qui est extrêmement intéressant parce que il nous apporte l'abondance tout en apportant la sobriété. Et c'est une économie qui se développe à partir des territoires, qui enrichit le milieu écologique, le milieu social, le milieu économique, et qui fonctionne exactement à l'inverse, en fait, de notre économie actuelle.
De nos jours, il y a une tension sans cesse grandissante à tous les aspects de la société, même au niveau national, de plus en plus pressante. Est-ce que cela donne encore cet espoir de cette proposition d'économie régénérative ou alors est-ce que c'est une théorie qui s'applique au long terme ?
En fait, comme je disais, elle est déjà en place, en fait, mais on n'est pas conscient qu'elle est en place. Et quand on regarde les attaques récentes qu'a subi l'Europe sur les menaces d'annexion du Groenland, l'attaque que subit l'Ukraine, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui est une attaque du territoire européen, On voit bien que aujourd'hui, les lignes géopolitiques se définissent entre des grandes puissances territoriales, les États-Unis pour les Amériques, la Chine pour l'Asie et la Russie qui veut influer, qui estime que son territoire est aussi l'Europe. Et donc on a besoin en fait d'avoir une Europe puissante, une Europe forte et qui coupe ses dépendances. Or, aujourd'hui, la dépendance à toutes les infrastructures numériques, elle est à 80% d'une dépendance américaine qui se révèle nous attaquer, donc qui commence à ne plus être nos alliés. Et c'est justement en fait les entreprises aussi qui détiennent plein de choses, les clouds, donc les endroits où on met nos données, les logiciels avec lesquels on travaille, comme Microsoft, comme la plupart des logiciels, et nos réseaux, les réseaux sociaux. De l'autre côté, en Russie et en Chine, c'est eux qui ont la plupart des ressources dont on a besoin. On a vu notre dépendance au gaz pour la Russie. On voit qu'on est extrêmement dépendant des importations chinoises. Et vous voyez, la Russie et la Chine se sont alliées pour pouvoir urbaniser, entre guillemets, le passage arctique, parce que le passage arctique permet à la Chine de diminuer de 30% son temps de trajet vers l'Europe pour approvisionner l'Europe et ses dépenses énergétiques aussi. Donc on est pris comme ça entre des géants qui ou ont nos données et les infrastructures numériques que l'on utilise ou qui ont les ressources qu'on utilise. Donc on doit accélérer les programmes européens qui vont vers cette économie symbiotique. C'est quoi ? C'est les programmes européens qui nous permettent en fait de développer nos propres réseaux sociaux. Et ces propres réseaux sociaux, ils existent déjà. Et on a une grande opportunité à développer ces réseaux sociaux à partir du local, en fait, et de les faire en open source et qui se relient. On est au niveau numérique encore, on est maintenant très fragile sur les cyberattaques. Et la Chine a développé développé au niveau numérique ces dernières années, notamment sur la cybersécurité, mais aussi sur les réseaux sociaux. Comme TikTok. Donc, on doit développer d'autres systèmes qui nous rendent résilients, d'autres systèmes que HTTP, par exemple, qui soient distribués, qui ne permettent plus cette centralisation que nous avons vécue avec Google, Amazon, etc., ce qu'on appelle les GAFAM. Ça existe aussi. Il faut absolument développer un numérique comme ça, souverain, open source, qui part des territoires, qui soit décentralisé. Donc, ces programmes-là, ils existent. Il faut les accentuer, il faut les rendre plus rapides. Ensuite, on a notre dépendance aux matières premières. Or, on voit que lorsque on développe d'autres modèles économiques où on ne possède plus nos objets, mais on en achète l'usage, eh bien, les fabricants de scooters, d'automobiles, de machines à laver, de circuits électriques, de circuits lumineux, ça existe maintenant presque dans tout, eh bien, récupèrent leurs matières premières et la réassemblent. Et du coup, en fait, ils deviennent indépendants des ressources stratégiques qui, aujourd'hui, nous mettent en tension au niveau mondial. En plus, donc, d'un point de vue géopolitique, cette économie régénérative, par ces modèles de non plus de possession, mais d'accès, nous permettent de nous protéger géopolitiquement. Ils permettent de protéger, du coup, les entreprises de l'inflation. Toutes les entreprises qui adoptent ces modèles sont à 80% indépendantes de l'inflation, ce qui fait que ça nous rend plus robustes. Et de plus, c'est des modèles qui sont obligés de créer des mini-industries au niveau local d'assemblage. Donc, elles relocalisent les emplois. Et elles fonctionnent vraiment lorsqu'elles sont en partenariat avec les collectivités et les usagers. Parce que sinon, vous voyez bien, si vous ne possédez pas vos objets et que c'est toujours le même fabricant qui les possède, à long terme, vous risquez d'être pieds et poings liés à lui. Donc, on a intérêt à ouvrir cette gouvernance au niveau des collectivités et des usagers. C'est des modèles coopératifs qu'ici, on connaît très, très bien dans la Biovallée. Eh bien, vous voyez, on voit que ces modèles-là permettent d'économiser la ressource, d'économiser l'énergie et de pouvoir être plus résilient demain avec des énergies renouvelables. On a déjà augmenté notre part des énergies renouvelables en Europe, et ça c'est très bien, Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a moins, c'est aussi pour ça qu'on a moins subi la crise énergétique ces dernières années. Mais c'est pas suffisant. Il faut diminuer notre consommation d'énergie. Et ça, ces seuls modèles industriels le permettent. Là, il y a aussi autre chose. C'est que, évidemment, ces industries, si elles se relocalisent, ce sera dans des territoires ruraux. Et dans des territoires ruraux, on a déjà des problèmes de stress vis-à-vis de l'eau. Et amener des industries, même si elles sont économes, elles ont besoin d'eau. Donc on a besoin de gérer la ressource en eau ensemble. Et on a besoin que l'agriculture, par exemple, puisse aussi devenir résiliente par rapport à l'eau et être indépendante de trop de prélèvements. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'augmenter toutes les pratiques, pas seulement d'agriculture biologique, la Biovallée, on est à 40% d'agriculture biologique, mais aussi d'agroécologie, qui permettent en fait au sol de mieux retenir l'eau. Et aujourd'hui, on devrait en fait permettre les prélèvements d'eau que lorsqu'on a mis en place toutes les pratiques nécessaires pour la préserver. Et c'est aussi ici dans la Biovallée qu'est née l'association Hydrologie Régénérative, par exemple.
Alors, ce que vous venez de dire, effectivement, pour nous, c'est une évidence, dans le Diwa, et peut-être un peu plus loin, avec Biovallée aussi. Alors, selon vous, quelle politique ou quel système politique permettrait justement cette avancée vers une économie régénératrice ?
Alors, on a un problème, c'est que vous voyez, cette économie, elle fonctionne en écosystème. Donc elle fonctionne en réseau. On a un politique aujourd'hui très centralisé. Les systèmes politiques actuels ont du mal en fait à comprendre ça. On a besoin de pouvoir décider davantage au niveau local, avoir une compétence économique encore plus importante au niveau des communes et des collectivités. Mais la commune reste... C'est Jacques Taïs qui a montré ça, que la commune reste l'endroit politique où il y a le plus de pouvoir en fait pour aller vers cette économie, pour aller vers la durabilité. Donc c'est vraiment de renforcer les communes, de renforcer leur pouvoir aussi à investir. Vous avez des communes en France qui ont investi dans des infrastructures d'énergie renouvelable, investi aussi même dans de la fabrication de voitures, investi dans la récupération de leur régie municipale de l'eau. Eh bien, les élus doivent se sentir aussi comme des investisseurs et pour que l'argent revienne circule sur leur territoire.
Alors, par votre activité, j'imagine que vous allez à la rencontre de ce qui existe dans divers lieux, que ce soit rural ou en ville même peut-être. Là, vous parliez de cette économie circulaire. Par exemple, j'ai reçu il y a 2 semaines l'association Liodi qui propose de sortir des GAFAM en créant un système avec un serveur local et aussi d'accéder à un système informatique qui se détache. Donc, ça peut être Linux ou open source. Donc, c'est un constat que vous avez pu voir un peu partout.
Alors, pas partout, mais il y a des endroits, par exemple, comme dans Lyon, à Joigny, où vous avez, en effet, le cloud est fait localement. L'accès à Internet, ils ont eu très tôt du très haut débit grâce à des coopératives numériques locales. Vous avez aussi à cet endroit-là, ça induit aussi à d'autres dynamiques. Vous avez une sécurité alimentaire jovinienne qui est en train de se créer, etc. Donc oui, il y a des endroits comme ça qui partent parfois du numérique, parfois de l'agriculture, parfois comme ici de la rivière, et qui créent qui s'étendent à plein de domaines.
Et justement, on nous parle de ces data centers énormes qui sont énormément hydro.
Oui, ils consomment énormément d'eau. Oui,
voilà. Et donc, ce qui nous est proposé par Liodi, notamment ce petit serveur qui rentre dans un placard, donc nécessite moins de refroidissement. Est-ce que c'est cette solution de réduire un peu ces postes de manière à les disséminer plus facilement sur les territoires,
alors, et plutôt voilà,
qu'un gros centre, data center?
On a plein d'opportunités. Franchement, imaginez, par exemple, il y a un entrepreneur belge aussi qui lui a inventé, en fait, après, il est venu vers moi, je dis, j'ai lu votre livre, je suis informaticien, je me suis dit, c'est génial. Et en fait, lui, il a inventé des systèmes de data center décentralisés qui chauffent les immeubles, d'abord les immeubles sociaux, tous les immeubles où c'est difficile de faire de la rénovation énergétique. Et évidemment, ça permet en fait l'eau de refroidissement des data centers. Au lieu d'avoir une chaudière qui consomme du fuel ou du gaz, vous avez une chaudière qui est votre data center en fait. Et ce qui fait que, bien sûr qu'il consomme de l'énergie, mais de façon décentralisée, ça permet d'alimenter localement ces data centers et ça permet de consommer, de donner une énergie qu'on aurait de toute façon consommée pour ces bâtiments. Et ça permet aussi d'imaginer que, ok, moi je suis entrepreneur, moi j'ai mon entreprise, j'ai un endroit où sont stockées mes données, mais j'ai envie de les stocker dans des entreprises locales comme ça, si je pouvais avoir ma coopérative où je peux stocker mes données qui chauffent les habitants précaires ou qui chauffent des bâtiments historiques qu'on ne peut pas rénover énergétiquement, je trouve ça extraordinaire. Je rêve de participer à ça.
Cette personne que vous avez rencontrée, donc, ces data centers permettaient de relier combien, donc, un bassin de population de combien d'habitants?
Alors, il est en train d'innover là-dessus. Hein. Et en fait, la première difficulté qu'il a eue, c'est de trouver un chauffagiste qui puisse relier, qui comprenne son idée, qui puisse relier ses data centers avec le système d'eau chaude de l'immeuble. Et puis, il y a quand même, faut pas sous-estimer aussi le fait qu'elles ont besoin d'être sécurisées, ces données. Donc, sécurisées physiquement et de la dégradation. Donc, il faut penser, lui, les met dans des caves, par exemple, avec deux systèmes de sécurité, comme des portes blindées. Il faut pouvoir les entretenir, ces data centers. Donc, là encore, c'est des emplois locaux. Et donc, il faut les penser distribués, mais pour être rentables, qu'ils puissent quand même être distribués dans plusieurs immeubles, par exemple, ou plusieurs endroits d'une même ville, afin que la sécurité et la surveillance puissent se faire facilement et que ça puisse rester compétitif au niveau du coût par rapport aux grands data centers des GAFAM.
Vous-même avez créé votre entreprise, hein, l'entreprise Symbiotique. C'est en quelque sorte une synthèse de vos connaissances. Et puis, c'est aussi une main tendue à tous ceux qui désirent aller de l'avant.
Alors, moi, j'enseigne au CNAM, l'économie régénérative sous l'angle de mes travaux. Donc, c'est une formation pour les adultes, qui est ouverte à tous, d'ailleurs. Donc, j'enseigne, en effet, les fondements de ce que nous, on utilise en entreprise pour accompagner les territoires, les organisations vers cette économie. Et donc, on accompagne des grandes entreprises, des petites. On documente aussi les expériences. On a aussi créé l'AFNORSPEC, économie régénérative, pour permettre de donner une première méthodologie, un premier consensus, en réunissant un groupe d'acteurs sous l'égide de l'AFNOR l'année dernière. Là, on crée aussi beaucoup de culture dans l'entreprise Symbiotique. Là, par exemple, l'AFD, l'Agence française de développement, nous a commandé un MOOC qui sera aussi accessible gratuitement pour pouvoir vulgariser ce type d'économie et qu'on la comprenne. On étudie par exemple aussi les modèles économiques. Et là, on a des publications qui vont se faire avec la Banque publique d'investissement. Et surtout, on peut accompagner des grandes entreprises dans des pilotes. Ça, c'est très important aussi qu'il y ait des pilotes. Mais aussi de créer les écosystèmes régénératifs territoriaux des entreprises. Là, on va commencer ça en Guadeloupe, par exemple. Donc, et pour moi, vivre dans la Biovallée, avoir installé notre entreprise dans la Biovallée, on l'avait d'abord installée. Enfin, c'est très important parce que c'est une. Je vois là ici se produire ce que je raconte. On l'avait aussi installée pendant plusieurs années à Roubaix, dans le nord de la France, qui est la ville pionnière de l'économie circulaire en France. Et ça a été passionnant aussi d'être là-bas. Pour nous, c'est vraiment important d'être au plus près du territoire.
Et puis, vous avez aussi le parc naturel et région Normandie-Maine. Le Vercors, vous y avez une implantation,
non,
pas encore ?
Non, le Vercors, non. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé mes travaux avec le parc naturel régional Normandie-Maine. Et pour justement unir les acteurs qui travaillaient avec les écosystèmes, en fait, avec les haies, avec les prés vergers, et de valoriser tout ce qu'ils permettaient de créer, de les réunir.
Une dernière question, là, parmi les clients, je vois l'Agence spatiale européenne.
Oui.
En quoi ça, vous avez pu intervenir ?
L'Agence spatiale européenne nous a demandé, vous savez, l'Agence spatiale européenne, alors l'économie symbiotique et régénérative, c'est une économie des communs. On doit mettre en commun, en fait, certaines choses. On garde son indépendance, mais on doit mettre en commun des choses pour ce qui nous permet de diminuer nos besoins et d'augmenter nos capacités. Et en fait, l'Agence spatiale européenne, c'est un commun entre différents pays de l'Europe, mais aussi entre des très grosses entreprises, hein, du type Thales, etc., et des toutes petites entreprises très innovantes. Et l'Agence spatiale européenne a une caractéristique par rapport aux autres agences spatiales dans le monde, c'est qu'elle a un endroit qui permet de rassembler tous les systèmes sont mis en place du satellite jusqu'à l'antenne, jusqu'au logiciel, pour pouvoir tester les nouveaux appareils qu'on fait rentrer. Et en fait, il s'agissait de créer un commun entre tous ces acteurs, grands, petits, publics, privés, pour que cet endroit d'expérimentation devienne un commun entre tous.
Je vais vous laisser puisque vous avez votre conférence, oui. Et puis un petit rendez-vous technique avant.
Donc, mais je merci, rappelle... pardon, de m'avoir posé toutes ces questions parce que ça montre en effet qu'on peut partir du pré-verger jusqu'au satellite et on voit qu'il y a...
Et donc j'indique aux auditeurs qu'il y a ce site l'entreprisesymbiotique.com. Tout attaché.
Il y a mon livre L'économie symbiotique qui est en poche maintenant. Il y a la FNORSPEC Économie régénérative qui est en libre accès. Il y a le MOOC AFD qui sort en mars, je pense, mars-avril. Et donc beaucoup de ressources comme ça directement disponibles. Merci beaucoup pour vos questions et de m'avoir reçu ici.
Merci aussi à vous, Isabelle Delannoy.
Merci.
Bonne soirée.
Bonne soirée.